le philosophe de la grammaire, parce que tout ce n'est pas un reproche que je lui fais, ce n'est pas son boulot. Mais toute cette chance offerte, c'est peut-être ça que je... par ce qu'on peut appeler le flux paronomastique, ou bien telle autre ressource offerte justement par une épaisseur, une dimension rhétorique, ou bien de signifiance, et le rebondir là-dessus, comme une de coïncidence en coïncidence, qui est une chance pour le... et presque un procédé aussi pour la continuité poétique, puisqu'au fond la grande anxiété, c'est d'être obligé de s'arrêter. Oui. Peut-être ça que je disais à ce moment-là en essayant de parler de déraillage, ou ce que vous avez dit à ce moment-là, hein. Ce qui encore une fois concerne, je crois, toute une épaisseur de ressources que l'audition, disons, syntaxique et l'audition du sémantique au sens de ce qui est dans les dictionnaires, n'ausculte pas, parce que ce n'est pas son travail de l'ausculter, et à quoi est attentif. Autrement dit, la différence difficile, c'est entre le bien écrire, et le grand philosophe qui écrit, c'est-à-dire qui écrit bien, et puis cet autre entraînement, alors évidemment avec une ouverture latérale, je cherche à comprendre ce que je disais par déraillement, mais aussi du point de vue phénoménologique, c'est-à-dire par des échappées, tout ce qui s'offre dans l'expérience qui a déjà la structure de ce qui peut émouvoir, dans la mesure où c'est encadré en forme de... dans la mesure où c'est déjà, disons, préformé comme une œuvre, ou comme une casier, ou une amorce d'œuvre qui s'offre là dans un découpage et qui par conséquent provoque l'émotion qui revient. Alors j'ai appelé ça dans un texte parfois l'échappée, la dérobade. Au fond, c'est sur les deux tableaux, c'est-à-dire dans des ressources de langage qui ne sont pas celles dans des jeux de langage, et puis dans des attentions parfois fugaces ou furtives à ce que j'appelle ici des échappées, c'est-à-dire ce qui se montre, ça va arriver peut-être à Proust, qui apparaît, ce qui surgit tout à coup en forme de tableau, qui dans cette mesure provoque une émotion, qui dans cette mesure renvoie au tableau, et qui dans cette boucle et cette réciprocité va vers l'achèvement d'une œuvre ou l'achèvement d'une page, ou en tous les cas une tentative de finition. J'ai un peu essayé de répondre à ces deux ou trois citations que vous avez prélevées, j'espère.
J'étais en train de penser en vous écoutant que, dans mon souvenir, dans des tas d'endroits, mais particulièrement à la fin de Gisant, par exemple, vous jouez, enfin, en reprenant des énoncés philosophiques, en particulier de Wittgenstein, justement, sur ce que vous venez de décrire.
Absolument. Et puis je crois que le ton poétique peut s'autoriser à nouveau, si l'on veut, le satirique, l'épigrammatique, le didactique. Et dans ce volume auquel vous faites allusion, il y a une sorte de reprise mnémotechnique, didactique, de sorte d'art poétique. Et autrement, c'est un peu ma formule de tout à l'heure, au début, en disant, au fond, d'une certaine manière, l'envie poétique ne se refuse pas grand-chose. On pourrait même songer à des retours de poèmes satiriques, peut-être. En tous les cas, le ton auquel vous allusion est un ton didactique, métrique, versifié, c'est-à-dire qui rentre, ou quasiment versifié, qui rentre dans le cadre traditionnel pour en sortir.
Mais quand même, la prose difficile, le point de départ, oui. cette tâche d'obscurité d'une prose, et pendant que la prose continue, cette apparition, peut-être pas d'un poème, mais d'un état poétique. Alors, c'est ça qui m'avait frappé.
Oui, alors ça c'est encore une autre chose, c'est peut-être le côté phénoménologique, je ne sais pas si on va aller vers Proust ou quoi. C'est-à-dire que tout dernièrement, j'ai retrouvé la sentence d'Anaxagore en lisant le livre traduction du cours d'Anna Arendt sur le jugé, il y avait à nouveau cette belle formule opsis, ton adelon, ta phénoména, c'est-à-dire où ces choses sont mises l'un à côté de l'autre, la vue, le phénoménal, les phénomènes au pluriel, et puis le adélone, c'est-à-dire ce qui ne se montre pas, ou le non-patent. Alors comment est-ce que ce qui paraît, le phénomène, peut en somme donner une vue ou offrir une vue sur le non-patent, c'est-à-dire ce qui ne sera pas patent. Je pense que ça, c'est une affaire de vue poétique. C'est ça le sens que je donnerais, ou je chercherais à donner à phénoménologie du point de vue poétique. essaye, quel est ce point d'où la vue perçoit, mais perçoit n'est pas très bon ici, de la vue, disons, est en relation avec du phénoménal, dans la mesure où c'est ce phénoménal qui donne, qui permet de prendre regard sur le non-patent. Alors, difficile, obscur, ce que je veux dire, c'est ce qui reste. C'est ce qui reste et qui est indécelable ou inéclaircissable. Comment dire ça, Thomas ? Et forcément, la vue poétique. Le manifeste est le comparant pour le caché, et puis ça se renverse. C'est-à-dire que finalement, c'est le caché qui devient comparant secret pour le manifeste. Ou dit autrement, il y a des propositions, dans le poème ou le texte poétique qui sont reconnaissables, hein, on n'a pas parlé de ça, on n'a pas le temps, mais alors, qui font des jugements au sens de la logique, c'est-à-dire qui sont des propositions, des prédications, alors, qui permettent à un lecteur d'avoir un plaisir du type, ah oui, c'est bien comme ça. C'est-à-dire, oui, je reconnais, autrement dit, le sécom permet la reconnaissance. Mais il n'y a évidemment pas que ça, c'est-à-dire qu'il y a un premier mouvement qui est pour que le manifeste renvoie à du caché, puis je crois qu'il y a un renversement, c'est-à-dire que ce qui est manifeste devient comparable à ce qui est caché. Et c'est ce renversement qui tournoie dans la phénoménologie poétique. On n'a pas été dans le Proust.
J'allais juste vous poser une question, mais je vous donne une réponse en une phrase et je vous donne la parole, madame. Oui. Alors, la question, c'était de me dire, est-ce qu'après cet échange, vous pourriez un jour écrire, un Mallarmé, philosophie de la poésie, ou Baudelaire, philosophie de la poésie, ou pas ?
Qui se présenterait comment alors, portant, comme faisant sur Mallarmé.
Non, mais c'est par rapport, c'est la suite inversée de la question que je vous posais tout à l'heure sur le roman et ce que vous en disiez. Enfin bon, dans la mesure où vous êtes risqué à commenter un texte de Guy et donc à rentrer dans un type de problème qui n'est pas le vôtre ordinairement concernant.
Non, mais je proteste parce que le au début nous avons été opposés là-bas la littérature poétique et ici la philosophie, mais d'abord. N'est-ce pas, Michel de Guignol fait
je vous ai comme de phénoménologie. Deux façons de mélanger.
Et puis, nous sommes tous les deux, à nos temps perdus, professeurs de français, dans des lieux divers, n'est-ce pas ? Et donc, nous ne sommes pas tellement des gens qui se rencontrent comme ça pour la première fois. Dans le cas de Mallarmé, ça ne serait peut-être pas nécessaire, puisque le Mallarmé l'a fait lui-même. Le commentaire est dans Mallarmé.
Madame. Où il parle de l'anthropologie du point de vue pragmatique de Kant directement.
Des mesures en le sens où elle rejoint celle de Balzac, bien sûr, c'est-à-dire de faire croire que la littérature a pour objet, pour finalité, de décrire le monde, de proposer des vérités exactes, et que donc un bon anthropologue est quelqu'un qui va comprendre très exactement ce que nous dit Proust. Bon. Pour ce faire, dans cette description, il est obligé évidemment de régler la question de l'œuvre. Ça n'existe pas. L'idée, par exemple, pour Vincent Descombes, que la littérature existe dans cette proposition qu'il y a une lacune au monde, que la littérature, c'est cette expression d'une lacune au monde, c'est quelque chose qui est complètement fou pour Vincent Descombes. Et Vincent Descombes est un positiviste. Il est persuadé qu'on peut décrire le monde de manière complète, avec beaucoup de patience, et que c'est ce que Proust a fait, et c'est pour ça qu'on doit aimer Proust. Alors, je ne veux pas dire que tous les poètes ou les écrivains n'ont pas eu le désir de cette grammaire secrète, qui est un peu celle de Vincent Descombes, mais ils l'ont conçue ou ils l'ont désirée en sachant qu'elle était impossible. Et là, je crois que Mallarmé en est l'exemple le plus frappant. Je crois que Vincent Descombes ne comprend pas que quand Michel de Guy dit « la poésie propose une expansion du monde », ça veut dire qu'elle n'est pas au monde et qu'elle n'est pas de l'ordre de la description. Et que c'est cela, la métaphore, l'écriture, et que cette écriture peut être dans la philosophie elle-même, et que la philosophie vaut aussi, quand elle touche quelque part, à cette obscurité d'une lacune du monde.
Vincent Descombes.
Malheureusement, je ne me reconnais pas du tout dans ce...
On est renvoyé à l'inconscient malgré lui, enfin, votre premier livre...
D'abord, je ne dis pas la littérature, alors que ce soit... que ce soit une chose dite, n'est-ce pas? Je ne parle pas de la littérature. Je pense que c'est une fausse catégorie. Les gens qui disent la littérature sous-entendent la littérature dans mon sens à moi. Alors, par exemple, on dit, vous faites de la philosophie, mais acceptez, c'est un genre littéraire. Je dis, très volontiers. Ah, donc c'est de la fiction. Ah bon, c'était ça, la littérature. Pourquoi n'avez-vous pas demandé la philosophie, c'est de la fiction? Je ne parle pas de la littérature, je parle... du roman, de la poésie, etc. Et ce sont des choses différentes. Les moyens du poète ne sont pas les moyens du romancier, qui ne sont pas les moyens de l'auteur de drame ou de l'auteur d'historiographie, de discours, de tous les genres littéraires. Alors, ça... Donc, je récuse déjà le sujet de la phrase, de la littérature. Quant à description du monde, c'est pas non plus mon expression. De ce point de vue, moi, je suis un aristotélicien obtus. Le roman, de même que le drame, ne sont pas n'ont pas à dire ce qu'il y a. Ils ont à dire ce qu'il doit y avoir, si. N'est-ce pas? Ça, c'est l'historia nous dit où était Alcibiade tel jour. Ça, c'est l'histoire. Et ce qui est important, c'est qu'Aristote dise que cette histoire soit en vers ou en prose, ça n'a aucune importance. C'est l'histoire. La poésie, ça, c'est autre chose. C'est ce qu'il doit y avoir. Donc, les vérités dont je reprends le mot chez Proust, c'est pas moi qui l'impose, n'est-ce pas, ou chez tel ou tel autre romancier, ces vérités sont manifestement non pas des vérités de description du monde dans lequel on verrait est-ce que j'ai bien, comme une sorte de projet de notaire, est-ce que j'ai bien noté tout ce qu'il y avait, est-ce que j'ai laissé, ou est-ce que, espèce de couvrir tout. Il s'agit pas de ça du tout, il s'agit d'un projet de pensée qui est la pensée de certaines nécessités. Alors, quant à l'anthropologie, en l'occurrence, quand il s'agit de la référence à Kant, je ne sais pas si je l'explique, mais je ne voudrais pas faire insister sur le mot anthropologie en ce point du propos, parce que je ne sais pas si je l'ai dit, mais enfin, ce que j'ai voulu dire, et j'ai peut-être eu tort de ne pas le dire, c'est que comme chez Kant, la morale est devenue morale pure, alors ce qui était la partie commune, si je puis dire, phénoménale entre les comédiens, les auteurs de caractère, etc., et les philosophes, c'est-à-dire l'éthique, eh bien, elle n'est plus dans l'éthique, au sens de l'impératif catégorique, donc elle réapparaît comme anthropologie. Par conséquent, disons, chez les Grecs, ce qui aurait été le matériel commun, en somme, du philosophe et des poètes, au sens d'auteur de tragédie ou de comédie, ça aurait été leur phénomène, pas au sens visuel, mais au sens d'Aristote, ça aurait été les histoires qu'on raconte sur les mœurs des uns et des autres. Eh bien, chez Kant, le recueil et la réflexion sur les mœurs des uns et des autres, ça s'appelle anthropologie, donc c'est en ce sens que j'emploie le mot anthropologie, et je pense pas qu'il y ait matière à faire une querelle là-dessus, ce qui veut dire que j'essaie de commenter Proust, je m'occupe d'un romancier et je ne pense pas que ça que les types d'écriture comme ceux de Michel de Guise soient tellement concernés, sauf dans les moments où le projet de Proust rencontre effectivement la prose poétique qui apparaît chez Proust, et aussi le projet du poème en prose qui apparaît également chez Proust, de telle sorte que là, nous avons une œuvre composite qui sort du cadre d'un roman pur. N'est-ce pas? C'est bien loin d'être un roman pur. Bon, voilà ce que je peux dire.
D'autres questions? Monsieur?
Sur le rapport à la grammaire, qu'on pourrait peut-être élargir en se demandant si finalement il n'y a pas une question de ou un problème de légitimité du discours qui est abordé de façon très différente entre le philosophique. Est-ce qu'on peut quand même regrouper peut-être sous cette catégorie un peu générale de la littérature et en définitive, en tout cas la philosophie dont vous semblez relever Vincent Descombes va toujours à l'épreuve du vérifiable, de la vérificabilité, de vérificabilité des énoncés. Et je me demande finalement si cette philosophie-là, par gros temps, ne serait pas celle qui toujours cherche à s'ancrer du côté d'un énoncé vérifiable, alors que la littérature, elle, prendrait le risque de ne pas s'ancrer, de se désancrer. Et finalement, dans tout votre discours de ce soir qui ne me donne pas le même plaisir que vos livres, d'ailleurs, parce que je crois que vos livres sont beaucoup plus subtils, mais évidemment, de ce qu'on peut articuler ce soir, et notamment votre Proust, mais il y a quand même un lapsus que j'ai trouvé assez significatif, c'est que dans un premier temps, vous avez dit « Dostoïevski, ce n'est pas que des mots », et ensuite, vous avez parlé de Proust, et vous avez dit « Proust, ce n'est pas des mots ». Et dans ce passage du « pas que » à pas, qui vous faisait finalement dire que le roman, c'était des idées de roman, des scénarios, des personnages pris dans une action. Finalement, qu'est-ce qui s'évacue? C'est justement le mot. Et c'est un petit peu là autour qu'on a constamment tourné ce soir. Et je crois que justement, la littérature, c'est le problème du mot. Et chez Proust, par exemple, je crois que finalement, la grande menace qui pèse constamment sur Proust, c'est de savoir s'il va dire « zut », comme il lui arrive quelquefois de le dire dans La recherche du temps perdu, devant quelque chose qu'il n'arrive pas à symboliser, ou alors s'il va réussir à opérer ce passage à la symbolisation. Et finalement, on a un peu l'impression, en vous entendant ce soir, que le mot est comme une espèce de reste, d'opacité. Vous avez parler de l'opacité comme incomplétude, et c'est un petit peu sur ce rapport au reste, au mot comme reste, que j'aimerais avoir des développements, peut-être.
D'une certaine façon, je dirais que c'est probablement la même question que...
Oui, ça ne sera pas des développements...
Sous un autre angle, enfin, c'est strictement le même problème.
Je pense qu'on va être chassé, donc ce ne sera pas des développements, ça sera des réponses insuffisantes, et hélas, qui ne seront pas suffisamment subtiles pour vous satisfaire, mais... Je rappellerai alors ici une phrase de Wittgenstein qui dit que quand on fait de la logique, comme il arrive qu'on doit en faire parfois, on n'a jamais affaire à des différences subtiles, parce qu'en logique, les différences sont toujours énormes, et elles sont immanquables une fois qu'on les a vues. Les différences subtiles, ça c'est dans la vie, mais pas... alors, si je parle de différences logiques, c'est justement pour refuser ce que vous m'attribuez au début, à savoir un souci de vérifiabilité ou vérificabilité, qui est une chose très respectable là où c'est pertinent, mais le propos philosophique dans les parties proprement analytiques d'un travail philosophique n'est pas du tout une recherche de vérité, c'est une recherche sur des possibilités de sens. La vérité ne se... La question de la vérité ne peut apparaître qu'à partir du moment où on s'est mis d'accord sur ce dont on débattait pour savoir si on allait le soutenir ou non. Et donc c'est beaucoup plus tard qu'on n'est pas pressé, n'est-ce pas, de savoir si c'est vrai ou non. n'est-ce pas, les vieilles disputes, y a-t-il ou non des universaux, ben, finalement, on n'en sait rien. On va d'abord disputer très longtemps autour de ce qu'on va proposer, au sens d'une offre peut-être pas très érotique, mais certainement d'une offre, n'est-ce pas, d'une offre de rapprochement des pensées, en tout cas, ou de rapprochement, en tout cas, peut-être des désaccords, des différences sur des pensées. Donc, il n'y a pas un souci d'ancrage dans la vérité que vous attribuez. Ça, ce sont des images. Alors, j'avoue pas accorder beaucoup d'importance à la différence entre ce ne sont pas que des mots ou ce ne sont pas avant tout des mots. Enfin, ce que je voulais dire par là, c'est
que... L'inconscient, malgré vous.
Oui. Non, mais comment dire, l'analyse du lapsus à l'état sauvage n'a pas toujours beaucoup de poids. Ce que j'ai voulu dire, peut-être ai-je bafouillé, c'est que les différences entre le genre poétique, que ce soit le genre poétique traditionnel ou les textes poétiques modernes, et d'autres genres, me paraissent au moins aussi importantes, et même, j'irais jusqu'à dire, plus importantes, que le fait que tout ça, c'est du langage. Parce que si vous dites l'important, c'est le mot, et il faut parler du mot, mais pourquoi ne diriez-vous pas que l'écriture des éditoriaux du Monde, c'est le problème du mot? Et il n'y a pas de raison de ne pas dire que ce n'est pas le problème du mot. C'est, le mot est très important, le mot juste. Et d'ailleurs, tous les écrivains l'ont dit. Balzac, n'est-ce pas, le grand politique, c'est celui qui s'est trouvé le mot de la situation. Donc, vous pourrez dire aussi bien que M. de Norpois, c'est l'artisan du mot, et tout son métier, c'est le mot. Je ne sais pas, les gens qui font des notices pour des produits pharmaceutiques, il s'agit, c'est une question de vie ou de mort, d'employer les mots comme il convient et de ne pas mettre à côté de la plaque. Donc, la question du mot, mettre en avant le mot peut donner des satisfactions, mais ce n'est pas une question qui permet de discriminer ce qui relève d'un art poétique et, au sens de notre poésie à nous, de ce qui relève d'un art poétique au sens d'Aristote, qui est une poésie de composition. Et Aristote, j'ai le regret de dire que je juge sa pensée importante en cette matière, c'est quelqu'un qui insiste beaucoup, n'est-ce pas? La tragédie, ça n'est pas les personnages, ça n'est pas les faits, ça n'est pas non plus les figures, c'est le mythe. Et le mythe, c'est une structure, c'est pas des mots. Si vous voulez, donc la tragédie, bien entendu, il y a des mots, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas mis le doigt sur une différence intéressante entre la tragédie et le reste. Alors, ce que je pense, c'est que il y a derrière tout ça un vrai débat. Il y a un vrai débat qu'on ne peut pas aborder maintenant, mais le vrai débat, c'est celui des gens qui... C'est pas un débat d'écrivain, c'est un débat de pensée autour de la littérature. C'est le débat de ceux qui disent que les genres littéraires sont une suggestion pénible ou quelque chose qu'on doit avoir par finitude, mais qui devrait être dépassé, ou quelque chose qui sera dépassé, ou qu'il y a déjà dans la modernité. Donc, si vous voulez, toutes les variétés possibles d'une position qu'on peut appeler un peu rapidement romantique. Et puis, une autre attitude possible qui est alors la mienne, qui est que, loin d'être quelque chose soit de nécessaire, mais d'une certaine façon de dur à supporter, soit... une contrainte qu'il s'agit de surmonter par des transgressions, les genres littéraires sont une nécessité qui fait partie de ce qui peut entrer de métier dans le travail d'écriture. Alors ça, je pense que c'est un vrai débat qui se déguise sous alors simplement des accusations. Mais vous avez négligé le langage comme étant par là la faute propre à la philosophie. Il faudrait d'abord prouver qu'il n'y a rien d'autre dans quelque texte littéraire, entre guillemets, que ce soit, qu'un art du mot. Ce qui voudrait dire que, si vous dites ça, c'est très grave, parce que ça veut dire que votre poétique implique que vous pouvez, en partant d'une linguistique du mot, construire comme ça, non seulement une linguistique des belles phrases, mais aussi des scénarios, des drames, des compositions. Et ceci, c'est un programme dont, je crois, l'échec est non seulement attesté par l'histoire, mais était prévisible. Non, mais pour des raisons philosophiques.
Je vous suis sur ce point. Vous déformez un petit peu où je me suis mal exprimé. Ce que je voulais vous dire, c'est que sur votre réponse, comme quoi il n'y a Dostoïevski, ce n'est pas que des mots, on est parfaitement d'accord. où j'en avais, c'était dans le deuxième temps où vous disiez le roman, c'est pas des mots. Je veux dire, que ça ne se réduise pas à des mots, on est bien d'accord, et là vous faites une caricature d'une perspective romantique à laquelle, je veux dire, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de gens pour adhérer de façon radicale. Moi, ce qui m'intriguait, c'était le passage qui n'était pas forcément un lapsus, qui était peut-être porteur d'une véritable conception. C'est qu'à un moment donné, vous dites, ce n'est pas que des mots, là, parfaitement d'accord, mais vous avez quand même dit que le roman, ce n'était pas des mots, après. Et c'est là que je ne suis pas d'accord. Parce que sur la position nuancée, on tombe d'accord, mais après, vous excluez ce qui serait d'un héritage romantique. Il me semble que vous caricaturez un petit peu
ce que je vous offrirai une offre de conciliation. Dans son être, le roman n'est pas que des mots, il y a aussi des structures narratives et toutes sortes de choses. D'autre part, l'art du roman n'est pas un art du mot, même si à l'intérieur du roman, on peut trouver une page poétique ici, une page de description, d'ekphrasis, qui, elle, fera appel alors à un art poétique qui, lui, alors, mettra en cause le mot.
Y a-t-il d'autres interventions dans la salle? Oui. Vous pouvez faire passer le micro au centre.
Que je ne comprends pas très bien, enfin, que je voudrais poser, c'est-à-dire que premièrement, M. Deguy a employé le mot jeu de mots pour parler de la poésie. Enfin, je ne sais pas quel sens il veut donner à ce mot-là, mais par exemple, il y a le groupe EMU, là, vous savez, le groupe de rhétorique de Liège, qui emploie ce mot-là, il se cautionne avec Piaget, en disant que le créateur, le poète, fait des jeux de mots, et il n'y a aucun risque, il n'y a pas de danger. Alors déjà, première chose, si on commence à dire que la poésie, c'est faire des jeux de mots sans danger, et que c'est joli, c'est très grave, parce que ça va devenir la rigolade. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je ne comprends pas très bien pourquoi la philosophie s'occupe tellement de la littérature en ce moment, et par hasard, et par exemple de la poésie, comme si...
C'était la question de ce soir.
Oui, non mais oui.
Je vous remercie de la reposer parce que c'est la question à laquelle j'aurais aimé que interlocuteurs répondent.
Oui, la réponse, je ne l'ai pas bien entendue. C'est-à-dire, je ne comprends pas très bien pourquoi la philosophie demande tant de comptes à la littérature, à la limite, parce qu'un poète comme Mallarmé ou Artaud ne rend aucun compte à aucun philosophe. Artaud, quand il crie ou quand il gueule, il ne dit pas « Hegel me le permet » ou « Platon ». Il a son dire, il a son monde, il l'exprime. Bon, c'est un peu ce que je veux dire, et je ne comprends pas très bien ça, pourquoi tellement la philosophie s'intéresse à la littérature. Comme si apparemment les poètes étaient plus capables de se défendre eux-mêmes, quoi.
Bon, je crois que je pourrais recommencer la soirée, mais ça serait difficile. Non, je veux dire un mot, simplement. Bien entendu, j'ai pris « jeu » de mots pour essayer de faire une distinction avec « jeu » de langage, mais il va de soi que la poésie non seulement ne consiste pas en jeu de mots calembours, mais qu'elle est sévèrement attaqué par les titres de Libération. Et donc, le devenir jeu de mots et le calembourage en général, et même la déformation extraordinaire, de la langue par cette attaque corrosive des mots qu'on voit crapoto, c'est, qu'est-ce qu'il y a actuellement sur les trucs
homo,
basta, crapoto, homo, etc. Il y a une dégueulasserie prodigieuse qui justement touche les mots et qui menace quoi? Une certaine suite de continuation, pas forcément d'ailleurs redoutable et grave de la poésie, ça c'est le premier point. Et puis alors, deuxièmement, mais là je ne suis pas d'accord avec vous, parce que vous êtes sur le deuxième point, que vous êtes dans les positions de repli, comme si justement la poésie était dans sa sphère et la philosophie dans la sienne, et ce n'est pas comme ça que marchent, disons, les choses de l'esprit. Il y a une multiplicité, une diversité, et par conséquent un être ensemble, c'est-à-dire un être dissemblable, un être pas comme, et ainsi un être enchaîné ou en ronde, comme je dis parfois, entre ces choses, et tout simplement c'est en transit, en transaction, ça commence par là, il y a ce multiple-là. Alors vous avez pris de très mauvais exemples, il est évident que Mallarmé est philosophe, il est clair que... Antonin Artaud, sauf peut-être dans les échos, la lie finale, et encore, quand il parle et qu'il pense depuis les lettres à Rivière ou ces innombrables lettres, ce sont des interrogations, des inquiétudes philosophiques avec les mots. Il n'y a pas un, bien entendu, une expérience philosophique, un lexique philosophique d'un côté, et puis de l'autre côté. Enfin, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Alors là, je ne serais pas du tout d'accord avec vous, mais je pense qu'il faudrait recommencer.
Bon, mais on recommencera une autre fois, parce que je veux dire, l'extinction des feux semble nous signifier la porte. Donc, merci à Vincent Descombes, merci à Michel Deguy, merci à vous tous, et à bientôt. La prochaine fois, je vous le rappelle, je crois que c'est, si je ne me trompe, le 16 du mois prochain, le 16 mars, avec Philippe Solers, que vous devez connaître au moins de nom, et Pierre-Marc de Biasi, spécialiste de la critique génétique.
Génétique avec Solaire. Ouais. À cause de Flaubert ou quoi?
À cause du fait que Solaire n'était pas libre le mois suivant pour partir de la chose.
Je suis un enfant, oui, non, c'est un peu ça.